de crise de santé liée aux résidences. Donc, la gestion financière, la gestion personnelle, la gestion des services à faire, la sécurité, l'entretien et les réparations du bâtiment.
Ça fait partie de quelle division à l'UDSMR, c'est la division?
Alors, le service des résidences relève des services auxiliaires qui lui relève du vice-rectorat exécutif à l'administration.
Et qui est votre supérieur immédiat, la direction des services auxiliaires?
Monsieur Régent Duval.
À titre de directrice, est-ce que vous avez accès à l'ensemble des dossiers locataires?
Oui, tout à fait. Je peux consulter tous les dossiers.
Est-ce que c'est vous qui avez la charge et le mandat de signer les baux, de faire signer les baux, de trouver des locataires, etc.? Comment ça fonctionne, votre service?
Oui, effectivement, mais dès une équipe, évidemment, j'ai la responsabilité des baux. Donc, soit que je signe les baux, ou bien qu'il y a des colliers ou des cartes qui sont dans le baux.
Il y a combien de personnel qui travaille sous votre direction au service des résidents?
Alors, c'est variable, évidemment, selon les saisons, mais environ une douzaine de permanents, plus les soignants qui s'ajoutent.
Combien vous dites?
Une douzaine.
Alors, on vient de parler du service de résidence dans un premier temps. Comment ça fonctionne au sein de la direction des services auxiliaires, les résidences elles-mêmes, qui est une de ces divisions-là? Quel est le mandat au niveau des résidences? Comment ça fonctionne les relations avec l'Université de Montréal?
Bien, les résidences ont un fonctionnement autonome à l'intérieur de leur mandat, tout en relevant évidemment du vice-rectorat à l'administration. Et puis, on fonctionne sur un budget d'autofinancement.
Ça veut dire quoi, sur un budget d'autofinancement?
Ce que ça veut dire, c'est que la construction elle-même, l'immeuble, a été financé par le gouvernement, mais l'opération quotidienne, journalière, annuelle, est sur un budget d'autofinancement. On n'a aucune source de revenus qui vient de la part de l'université ou d'ailleurs.
Vous voulez dire que le gouvernement ne finance pas non plus, mais quand on dit d'ailleurs, c'est de diverses parties, n'importe qui, là, privé ou public.
Il n'y a personne qui subventionne l'opération quotidienne des résidents.
Vos revenus sont tirés, j'imagine, des loyers. Est-ce que d'autres sources de revenus?
Oui, il y a deux autres types de revenus, la clientèle d'été et les revenus d'hiver.
Les revenus plus amplement ultérieurement, là, mais le service de résidence lui-même, il y a combien de studios disponibles qui sont mis en location à chaque année?
Alors, il y a 1121 studios jusqu'à une concurrence d'environ 62 locataires. Parce qu'à l'intérieur de l'ensemble des studios, il y en a des doubles.
Ah, il y a combien de studios?
1170 en tout.
1121 studios, oui. Jusqu'à une concurrence de 1162.
62.
Locataires.
Donc, il y a combien de doubles là-dedans dans les 1121 studios?
41.
Je dois en déduire qu'il y a 1080 studios simples.
Oui, exactement.
Donc, quand vous avez dit 1162, ça c'est 1080 plus 82 si les studios doubles sont occupés, évidemment,
en double.
Mais il y a une possibilité de louer les studios doubles, je pense, pour une personne seulement. Là.
C'est ça. Ça, c'est le choix de l'individu. Il peut le faire de le louer seul ou bien avec un colocataire.
Et au niveau du nombre de résidences disponibles, on a parlé évidemment amplement, particulièrement des tours mixtes. La tour ouest, il y a combien de studios disponibles?
La tour ouest comprend 396 studios.
Et la tour est?
388 studios.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre le nombre de studios disponibles dans l'ouest par rapport à l'est?
Oui, il y a quelques années, on a converti l'un des étages. Alors, ça fonctionne, il y a 16 chambres de chaque côté, une chambre double au milieu. On a converti l'une des ailes pour des chambres pour handicapés.
Dans quelle tour, ça?
On est dans la tour S. Et on a donc pris deux chambres pour faire une chambre pour handicapés.
C'est la raison pour laquelle la tour S, il y a un peu moins de chambres disponibles.
Oui, exactement.
Et tout à l'heure, on a parlé au niveau des studios disponibles, des revenus, des vos dépenses consistent en quoi?
Il y a les prestats de dépenses, il y a tout le personnel, il y a aussi le chauffage, l'électricité, commence avec les réparations et les routeurs chaque année. On a la sécurité et on a aussi les frais reliés à l'entretien dans le sens de ménage qui est fait dans les champs. Alors ce sont les plus gros postes budgétaires.
Chaque année de fonctionnement, est-ce qu'il y a des surplus qui sont dégagés depuis votre début de votre mandat, cet administrateur, directeur?
Il y a des surplus qui sont dégagés et pour nous, c'est quelque chose qui est important parce que ça crée finalement un fonds de réserve qui sert finalement à pallier aux imprévus, que ce soit qu'il faut changer, je ne sais pas, moi, le réservoir d'eau chaude ou autre chose là, qui peut évidemment arriver dans un immeuble.
Est-ce que c'est versé en... Maintenant, c'est un certain surplus en de fonctionnement en 99-2000. Est-ce que ça va être versé à l'université?
Il n'y a aucune somme d'argent qui est versée à l'université de ce fonds de réserve-là.
Pouvez-vous nous décrire maintenant les studios, le service qui est offert par la résidence? Et comment se présente le studio? Peut-être on... Voilà, vous avez devant vous un document, une brochure intitulée des studios qui est à l'onglet 1 du cahier P1. Alors, peut-être à l'aide de cette brochure, nous écrire un petit peu quel est le studio qui est offert.
Alors, le produit en fait, qu'on offre aux étudiants, c'est le nouveau studio là, de l'anglais. Ce que ça comprend, c'est un studio qui est meublé. Alors, il y a un lit, une commode. Il y a une table de travail avec une tablette pour le clavier. Il y a aussi une bibliothèque au-dessus du bureau de travail, une chaise ergonomique.
C'est quoi cette chaise ergonomique?
Ben, c'est une chaise vraiment adaptée pour le travail de quelqu'un qui travaille longtemps là, à l'ordinateur, ou qui est plus confortable pour l'étudier. Et puis, évidemment, chaque studio est doté d'un lavabo et d'une unité.
Cette brochure-là, est-ce qu'elle est... Bon, comment vous faites connaître le service des résidences à la communauté?
Ben, il y a différentes façons où on diffuse l'information. Alors, la première, il y a des journées de porte ouverte qui sont organisées à la fois par l'Université de Montréal et l'IHEC. Alors, on y est présent pour y tenir des kiosques. On distribue à ce moment-là aux gens qui le désirent la brochure. Il y a aussi les registreurs qui nous téléphonent afin d'adresser l'information aux gens qui le demandent ou bien ils vont l'envoyer en même temps que la demande d'admission, des choses comme ça.
Alors, vous dites, ils vont l'envoyer, est-ce qu'on se parle de cette brochure-là, est-ce que c'est envoyé à l'étudiant qui vient d'être inscrit à l'université, c'est ça que vous voulez dire?
C'est exactement ça.
Est-ce que également si la brochure est adressée dans les médias publics, les médias qui s'adressent à l'ensemble de la population?
Non, c'est pas du tout. On n'a aucune publicité au niveau du public. On n'a pas besoin. On a plus de demandes que d'autres.
Il y a combien de... Quand vous dites qu'il y a plus de demandes, il y a combien de demandes à chaque année qui vous sont acheminées?
Ben, si on regarde cette année, ça tourne autour de 1200 demandes qu'on avait.
Pour combien de places disponibles?
Ben, on avait environ 600 places de disponibles. Alors, c'est à peu près du 2 pour 1 environ.
Et c'est offert, donc vous avez dit, lors de certains, bon, le registraire, on comprend que c'est le registraire de l'université, les journées portes ouvertes ou HEC, donc l'Université de Montréal, c'est offert, donc, quelle est la clientèle visée spécifiquement pour les résidences?
Bien, le critère pour venir aux résidences, d'abord, il faut être étudiant. Quelqu'un du public ne peut pas venir, il faut vraiment être étudiant. Et puis, il faut être étudiant temps plein, soit à l'Université de Montréal ou à l'une de ses écoles affiliées, mais vraiment temps plein.
Et qu'arrive-t-il si l'étudiant n'est pas inscrit à temps plein?
Bien, si un étudiant n'est pas inscrit à temps plein, il ne peut venir aux résidences. Il faut absolument qu'il le soit. Si on détecte que l'étudiant n'est pas étudiant à temps plein, à ce moment-là, conformément au Code civil, lorsqu'il arrête l'étudiant, il n'a plus le droit du tout d'être aux résidences. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on lui envoie un avis où on lui dit qu'il a 7 jours pour quitter les résidences.
Ça, c'est l'étudiant qui est dans quelle situation?
Ça, c'est un étudiant qui n'est plus du tout aux études. Alors qu'on peut avoir un deuxième cas, il y a des étudiants qui sont à temps partiel, Encore une fois, conformément au code civil, l'étudiant doit quitter dans le mois qui suit. Encore une fois, on lui envoie un avis pour lui signifier.
Je vous présente ici, à l'onglet 2 de la pièce P1, un document intitulé « Bail dans un établissement d'enseignement ». Est-ce que vous reconnaissez ce document?
Oui, je reconnais.
Vous pourriez nous décrire, en fait, en quoi consiste le document sommairement? Évidemment, le document est complet en lui-même, là, mais c'est quoi qui est visé par ce document?
Bon, ben, il s'agit du bail, le bail qui est propre finalement aux résidents. On sait qu'il y a deux types de baux, pardon. Alors, il y a le baux qu'on va trouver pour un appartement sur la rue Édouard-Montpetit, puis on a le baux pour les résidences. La plus grande particularité de ce bail-là, c'est un bail qui est fait sur 8 mois. Alors, l'étudiant ne s'engage que du mois du 1er septembre au 30 avril. Et puis, il peut résilier aussi à l'intérieur, s'il donne un préavis d'un mois, c'est censé, et puis
pourquoi vous faites un bail de 8 mois plutôt qu'un bail sur l'année civile?
On fait ça pour, finalement, nous, on est là pour les étudiants en résidence, et on fait ça pour favoriser l'étudiant, de sorte que il n'est pas lié sur 12 mois, puisque ses cours se terminent, la plupart se terminent au 30 avril.
Qu'arrive-t-il le 30 avril pour un étudiant?
Bien, le 30 avril, l'étudiant, en fait, ce qu'on fait, c'est que au 1er mars, on envoie un avis de renouvellement. Alors,
Là, je vous présente ici l'onglet 3 de pièce P1, avis de renouvellement. Est-ce qu'il s'agit du document dont vous venez de parler?
Oui, exactement.
Est-ce que ça, c'est vous me dites le 1er mars, on voit le 1er mars 2000, est-ce que c'est fait à chaque année, ça?
Oui, systématiquement, chaque année, on envoie ça aux étudiants.
Vous pouvez nous décrire, qu'est-ce que vous faites le 1er mars avec cette documentation-là et le diviser?
Bon, alors le 1er mars, on envoie systématiquement à tout le monde un avis de renouvellement pour rappeler aux étudiants que la fin du bail achève, parce qu'au 30 avril, normalement, l'étudiant doit donc quitter. C'est la fin du bail. Sauf que on envoie un avis pour connaître leur intention pour l'année suivante, donc septembre dans ce cas-ci 2000, et connaître aussi s'ils désirent prolonger leur séjour durant l'été. Alors deux choses. La première, est-ce qu'ils veulent reconduire leur bail? La deuxième, est-ce qu'ils veulent prolonger le séjour d'été?
La réponse de l'étudiant, c'est dans un document intitulé « Réponse à l'avis de modification au bail » qui est adjoint à l'avis de renouvellement, c'est le troisième document de l'onglet 3. C'est bien ça qu'on venait nous relater.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quel est le choix de l'étudiant, donc, lorsqu'il reçoit le 1er mars l'avis de renouvellement?
Alors, sur ce document-là, il peut répondre au niveau du renouvellement de bail pour l'automne 2000, s'il est intéressé ou s'il n'est pas intéressé. Et dans un deuxième temps, il peut nous faire part pour le séjour de l'été, s'il veut prolonger ou s'il ne veut pas prolonger.
Est-ce qu'il y a une durée fixe au niveau de l'été pour laquelle il doit prolonger?
Il n'y a pas d'obligation de sa part. Il nous fait, en fait, compte, il nous fait part du nombre de jours qu'il désire demeurer durant l'été. C'est très variable d'une personne à l'autre.
Autrement dit, est-ce qu'il peut rester jusqu'au 15 juin ou au 20 juin? C'est son choix.
C'est son choix.
Est-ce que l'étudiant qui prolonge l'été doit être étudié?
Non, il n'y a pas de statut particulier.
Est-ce que la personne, par contre, il y avait une question dans la question. Je reformule. Est-ce que la personne qui désire prolonger l'été doit être étudiant inscrit?
Non, il n'y a pas de statut particulier sur l'été.
Et pour le septembre, est-ce que c'est la même réponse?
Non, septembre, là, par contre, il faut qu'il soit, il s'engage vraiment à être étudiant à temps plein.
Alors, lors du renouvellement, la séquence, le 1er mars, vous adressez donc l'avis de renouvellement à l'étudiant. Vous expliquez donc les politiques, le deuxième document, c'est l'avis de modification, j'imagine, les modifications, tarification et autres.
Exactement.
Le loyer payable pendant l'été, est-ce qu'il est bel et bien 185 et 58?
Oui, c'est ça.
Pendant l'hiver, c'est 195 et 36.
Oui, 36.
Et pour l'année prochaine, 194 et 23. Ça, on parle évidemment du studio 5.
C'est ça. Alors, on a l'ancien tarif et le nouveau tarif.
Document suivant, demande d'obtention de service. C'est quoi exactement ce document?
Alors, c'est ça. Quand les gens nous signalent qu'ils sont intéressés à revenir pour le mois de septembre, on leur demande de nous faire part des services qu'ils souhaitent avoir. Alors, ils cochent, puis ils indiquent le prix, ils font le total. Alors, puis, encore une fois, ils nous signalent qu'ils sont intéressés à prolonger pour l'été 2001, l'année suivante. En même temps, on leur envoie aussi...
Document suivant, c'est ça, demande de location.
Alors, on leur envoie en même temps une demande de location, et c'est le moment, s'ils le désirent, un étudiant qui était dans la chambre X, puis qui souhaiterait aller dans la chambre Y, il peut cocher une case, nous indiquer à quel endroit il souhaiterait, à quel endroit qu'il souhaiterait être logé, puis dans la mesure du possible, on va lui donner.
Comment le fait-il, l'indication, son changement, s'il souhaite changer de studio, où est-ce qu'il indique ça?
Alors, à l'arrière du formulaire, il y a un endroit précis où il peut identifier dans quel tour et même sur quel étage qu'il souhaiterait déménager.
Ça, est-ce que tous les étudiants qui arrivent en résidence peuvent faire une telle demande?
Non, c'est un privilège maintenant des étudiants de deuxième année. Alors, c'est quelqu'un qui renouvelle son bail qui peut faire une demande comme ça.
Et quelqu'un qui demande pour la première fois une location en résidence,
yep.
Puis, est-ce qu'il y a le même formulaire à remplir, demande de location?
C'est le même formulaire, sauf qu'il n'y a pas de versé parce qu'on ne lui laisse pas le choix.
Et à ce document-là, il y a également les règlements 2000-2001 qui est annexé.
Oui, ça c'est le dernier document là, qu'on remet systématiquement à tout le monde. Il y a toujours une copie des règlements remis au premier mars.
Ça c'est ce qui constitue l'envoi aux gens qui sont déjà, déjà donc en place. Est-ce que tous les étudiants ont reçu tous les locataires en résidence au 1er mars? Un tel ensemble de documents, ce qui figure à l'onglet 3 de la DSPA.
Oui. Chaque locataire qui était sur place a reçu ce document personnalisé.
Et vous l'avez envoyé de quelle façon?
Pour ce document-là, il a été remis sous la porte de chacun par un de nos employés. Il y a eu un rapport de signification qui a été fait à cet effet.
Ça, c'est envoyé, donc, je comprends, aux quatre immeubles des résidences, pas seulement la tour ouest ou la tour est qui a fait l'objet du débat jusqu'à présent, mais également Thérèse Cassin et l'annexe.
À chaque année, au 1er mars, on fait ça pour l'ensemble des résidences.
On vient de parler de les renouvellements. Pourriez-vous nous dire également l'été, quelle est la situation particulière, quels sont les locataires présents? Donc, on voit déjà, il y a certains de vos résidents peuvent prolonger leur séjour. Il y en a combien sur les... avant de parler de la clientèle d'été, combien de résidents choisissent à travers les années, et plus particulièrement l'an 2000, si vous avez les statistiques, de prolonger leur séjour après le 30 avril 2000?
Il y en a environ 400-450 qui vont rester tout l'été.
Et combien vont décider de rester une partie de l'été, là? Parce que c'est quand vous dites tout l'été, c'est les 4 mois. Là.
Il y en a peut-être environ 550 qui restent au mois de mai. Puis graduellement, ça diminue jusqu'autour de 400-450. Et au mois de septembre, ça remonte.
Alors, les autres studios sont-ils occupés à partir du 1er mai?
Oui. Alors, comme on est sur l'autofinancement, c'est important d'aller chercher un maximum de revenus là, pour garder un loyer bas pour les étudiants. On a d'autres types de clientèle, donc on a 3 types de clientèle. On a la clientèle des étudiants qui ont manifesté leur intérêt dans le document qu'on a vu.
Ça, c'est ceux dont on vient parler.
C'est ça. Alors, qui ont manifesté l'intérêt de rester.
Ça, c'est les 480 ans.
Oui, exactement. Ensuite, on a aussi une autre clientèle qui est une clientèle étudiante, ce qu'on appelle l'école de français. Donc, c'est un programme universitaire et académique. Ce sont des étudiants à temps plein qui proviennent de la faculté d'éducation permanente. C'est un programme qui est aussi très important pour l'université.
combien de personnes qui sont inscrites dans ce programme-là et qui utilisent le service des résidences, l'école de français?
Alors, on a eu deux groupes. On a eu un groupe de au mois de mai d'environ 150. Et puis, on a eu un groupe de 450 au mois de juillet.
Ça, c'est les deux, c'est les écoles de français,
ça? Ça, ce sont les écoles de français.
Et ça, c'est des groupes qui reviennent à chaque année?
Oui, à chaque année, les groupes de l'école de français reviennent au mois de juillet. Sauf que cette année, le groupe s'est présenté au mois de mai, c'est une exception, on le sait à la dernière minute. Ce qui est arrivé, c'est que...
Ça veut dire que le groupe, c'est les 150?
Oui, les
150. Donc, ces 150-là ne reviennent pas à chaque année. Faut penser seulement le groupe du mois de juillet qui revient à chaque année.
Exactement. C'est la première année qu'on les recevait, le
groupe de 150. Alors, c'est quoi ce groupe-là de 150?
Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une grève à l'Université du Québec à Trois-Rivières, une grève des chargés de cours. Ça, c'est un programme qui est fédéral et le gouvernement a redistribué ces étudiants-là dans diverses universités. Et l'Université de Montréal en a eu 150. Alors, c'est un groupe qu'on n'a absolument pas habitué.
Ils sont arrivés à quelle période?
Ils sont arrivés le 7 mai.
Vous les avez logés où?
On les a logés dans les Trois-Rivières.
Ils restaient là combien de temps?
Environ 5 semaines.
Pourquoi la tour ouest?
Bien, nous, on s'est dit, la tour ouest, on avait deux choix. Il y avait la tour est et la tour ouest. La tour est, on sait qu'il n'y avait pas de travaux, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. La tour ouest, il y avait des travaux à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, on s'est dit qu'on voulait favoriser finalement les locataires permanents dans une meilleure situation. Donc, on a mis les gens qui restent là pendant 5 semaines dans la tour ouest, où c'était plus bruyant. Pour différentes raisons. La première raison, c'est que ces gens-là étudient dans le jour, donc on était sûr qu'ils n'étaient pas présents entre 8h30 et 4h30. Donc, ils avaient moins de désavantages de ce côté-là. Il y avait, bon, évidemment, il y avait les constructions. J'ai entendu dire aussi dans les témoignages, il y a des gens qui disaient que la vie d'étage était bien importante, selon tout ça. Et dans la tour ouest, les salons n'étaient pas disponibles. C'était rempli de matériaux, de construction. On les enlevait les meubles. Alors, ces gens-là n'avaient pas vraiment... ils n'avaient pas accès aux salons.
Quand on parle de ces gens-là, c'est toujours les gens inscrits au cours de l'an.
Oui, ce sont nos... ce sont les étudiants de la faculté d'éducation permanente.
Dans la tour ouest, est-ce qu'il y avait des salons dans la tour ouest disponibles?
Oui, les salons étaient toujours disponibles. Les conditions étaient identiques à ce qu'ils vivent durant l'année. D'autre part aussi, on avait la construction des salles de bain. Alors, si on regarde du côté sud, on avait des... il a fallu faire... quand on a fait la construction du côté sud, il a fallu passer des tuyaux dans l'ensemble des salles de bain. Alors, il y a une salle de bain qui n'était plus du tout disponible d'un côté. Et de l'autre côté, on avait la salle de bain qui n'était pas rénovée, qui comportait finalement deux toilettes et deux douches. Alors, on avait deux toilettes et deux douches pour l'ensemble finalement de l'étage. Alors, c'est ça.
Pour 16, pour un...
33. Alors, on disait, c'est sûr que c'est beaucoup plus d'inconvénients que les gens seraient mieux servis finalement en allant dans la tour ouest. Puis aussi, on avait une autre chose qu'on a commandé différents mobiliers pour les studios. Évidemment, les fournisseurs, on place nos commandes tôt, mais il arrive toujours des imprévus. À un moment donné, on a manqué de chaises. Alors, on n'était pas en mesure de confirmer qu'on pouvait offrir tout le service dans les délais requis. Alors que la clientèle qui était là pour 5 semaines, ben, c'est sûr que ça ne faisait pas leur affaire, on a eu des plaintes. Mais c'est un peu moins pire. Je vais vraiment favoriser les étudiants permanents.
Maintenant, on arrive évidemment à la question des rénovations qui ont fait l'objet justement de la demande à la régie du logement. Dans un premier temps, ces rénovations-là, pourriez-vous nous dire à quelle mesure l'université a été dans l'obligation de procéder? C'est venu quand et de quelle façon à l'agenda de l'université?
Bon, la première fois qu'on a commencé à regarder ça, c'est en juin 1999, autour de ce mois-là. On s'est dit, il y avait deux choses. Il y avait les travaux extérieurs, ça devenait vraiment peu sécuritaire.
Excusez-moi, mais est-ce que vous n'avez pas terminé? Madame, tout à l'heure, disait qu'il y avait trois clientèles. La clientèle des Régiliens, la clientèle des écoles de français, oui. La troisième clientèle.
La troisième clientèle, ce sont des gens de passage qui vont héberger pendant 2 ou 3 jours.
Donc, ça sont également ces sociétés qui sont disponibles au jour.
Au jour, pour ce qui reste de disponible. OK. Donc, on en était à la nécessité des travaux. Bon, il y avait les travaux extérieurs. C'est devenu de plus en plus dangereux. On sait que la coquille extérieure s'est fritée. Alors, il fallait faire en sorte de rendre ça sécuritaire. De plus, on a eu aussi un avis des ingénieurs de l'Université de Montréal, la direction des immeubles, qui nous disait que ça devenait vraiment urgent que ça soit fait. D'autre part, pour ce qui est de l'intérieur, je pense que ça part de soi-même. Les résidences, la plus vieille résidence, c'est la résidence des garçons qui était bâtie en 56, donc 44 ans. Et puis les autres, c'est installé entre 30 et 44 ans. Les besoins d'âge.
Est-ce que ça avait été rénové avant?
Non, ça n'a jamais été rénové.
Résidence des garçons, c'est laquelle? Je peux savoir un jour qu'on parle de ça.
C'est 24-42. Okay. Ça vient des noms. Alors, il est à temps qu'on fasse à la modernisation des studios.
Parler de la modernisation, c'est également donc l'aménagement intérieur de chacun des studios.
Oui, alors on a complètement refait l'intérieur et puis on a sécurisé l'extérieur.
Et pourquoi refaire les studios? Vous dites ça, c'était évident, mais c'était quoi le besoin qui pourrait ressembler au niveau de réaménagement aux studios à l'intérieur?
Bon, à l'intérieur, il y avait 2 types de travaux. On a rénové 3 types de travaux. On a rénové les studios, on a rénové les salons et on a rénové aussi les salles de réunion.
On va parler d'abord dans un premier temps de la rénovation des studios en soi. Alors, qu'est-ce qui a été rénové dans les studios?
Alors, dans les studios, on a tout enlevé. Partout où il y avait du tapis, les gens se plaignaient parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient allergiques. C'était pas tellement... c'était difficile de garder ça propre, finalement. On a tout enlevé aussi, le mobilier. Et puis, on a repeint. On a mis la tuile et on a mis le mobilier.
Nouveau mobilier, pourquoi de nouveau mobilier? Est-ce que c'était parce qu'il était trop vieux, l'ancien, ou il y avait d'autres raisons aussi?
Il ne répondait plus du tout aux besoins des étudiants. Comme par exemple, il y a 30 ans, il n'y avait pas d'ordinateur. Je voulais des ordinateurs parce que tout le monde a ça.
Alors, vous avez parlé également de rénovation aux salles de bain. Pourquoi refaire les salles de bain? Est-ce que c'est une question de vétusté également?
Oui, il y avait une question de vétusté, il y avait une question de besoin. On avait beaucoup de plaintes. Il y avait des gens qui avaient de l'inconfort face aux salles de bain mixtes. Il y avait aussi une certaine intolérance culturelle. Je me rappelle une des personnes qui est venue témoigner, Mme Chouin, qui disait là, que sur son étage, voir un monochrome, c'était un peu dérangeant. Alors, on peut s'imaginer que pour des salles de bain mixtes, c'est très dérangeant.
Il y a combien de nationalités présentes aux résidences de locataires, selon vos statistiques?
Selon nos statistiques, il y a 22% de nos clients qui sont multi-ethniques. Et qui représente 44 pays.
Donc, vous avez procédé à la rénovation de vos salles de bain pour les rendre, un côté, cesser qu'elles soient mixtes, autrement dit.
Cesser qu'elles soient mixtes et puis aussi pour en ajouter, pour donner plus de confort finalement aux résidents.
Avant, il y avait combien de salles de bain disponibles pour chacun? On va prendre par étage. On va spécifiquement s'attarder à la tour ouest et la tour est, qui sont similaires, parce que la première est belle. Alors, il y a combien de salles de bain qui étaient disponibles dans la situation jusqu'au 30 avril 2000, avant les rénovations? Combien de salles de bain disponibles?
Alors, avant les rénovations, il y a une salle de bain à chaque bout de corridor, à chaque bout d'aile. Et puis maintenant, on a doublé, il y a 2 salles de bain à chaque bout d'aile. Et puis, on a une salle de bain homme, une salle de bain femme.
Et quand on parle de chaque bout d'homme, d'aile, est-ce que vous voulez dire que c'est le côté sud et nord, ce qu'on a appelé le côté sud et nord de chacune des tours?
Exactement.
Et il y a combien de personnes par aile?
Alors, il y a 16 personnes par aile, et puis il y a une chambre double au milieu qui peut comporter 1 à 2 personnes.
comment cette rénovation qui allait venir, comment est-ce que ça a été communiqué à l'ensemble de vos locataires ou à l'ensemble des intervenants qui avaient, à qui ce que ça pouvait intéresser finalement?
Commencé à partir de 15. Bon, alors, en juin 99, on a émis un premier communiqué pour informer les locataires que des rénovations s'en venaient. Alors, ça a été diffusé à l'ensemble des gens, toujours par la voie des casiers postaux.
Je vous présente ici un document intitulé « À propos des résidences Onglet 4 ». Est-ce que vous reconnaissez ce document-là?
Oui, je le reconnais.
Est-ce que c'est ce document-là qui a été diffusé?
Oui, ça a été ce document-là. Et puis, en gros, ce qu'on disait, c'est que il y a des rénovations qui s'en viennent en ville.
Qui est l'auteur du document?
C'était moi qui l'ai proposé.
Est-ce qu'il y a eu des réactions à ce communiqué là, qui a été adressé finalement aux locataires?
Bien.
Quelle a été l'étape suivante suite à la diffusion de ce communiqué-là?
Bon, alors, par la suite, oui, il y a eu des réactions. On a rencontré l'ERCO pour discuter du projet de rénovation. Ça s'est fait au début juillet.
Qui a rencontré l'ERCO?
Il y avait moi, il y avait M. Duval, on a rencontré l'ERCO. Il y avait M. Goulin, puis quelques membres de l'exécutif.
Bon, l'ERCO, ça c'est l'association étudiante des résidences. Sur la communauté de Versailles-Montréal, c'est bien ça, c'est l'association
oui.
Qui s'occupe majoritairement des locataires.
C'est l'association qui représente les locataires.
Cette rencontre a eu lieu à quel endroit?
Ça a eu lieu dans la salle d'études en face de mon bureau.
Et de quoi a-t-il été question lors de cette rencontre particulièrement?
Bon, alors c'était une première rencontre, on a parlé des rénovations, ce qui s'en venait, le projet, un peu la portée, les studios, les cuisines, des choses comme ça.
Ça a duré combien de temps?
Une heure ou deux.
Est-ce qu'il y a eu une suite à cette rencontre-là? C'est la prochaine démarche?
Oui, après ça, il y a eu un communiqué qui a eu lieu au mois d'octobre 1999, qu'on a encore une fois envoyé à l'ensemble des locataires par la voie des casiers postaux.
Présente ici un document rénovation résidente. Est-ce que vous reconnaissez ce document-là?
Oui.
Est-ce qu'il s'agit du communiqué dont vous venez de traiter?
Oui, tout à fait. Alors, ce communiqué-là servait principalement. Quand le projet de rénovation a été mis en avant, il y a eu entre autres des rumeurs qui ont circulé à l'effet qu'il y aurait une augmentation de 100 $ par mois, des choses comme ça. On est venu rectifier l'information par ce communiqué-là.
Ces rumeurs, ça vous était acheminé? Qui vous en parlait de ces rumeurs? Il faut que ce soit quand même quelques personnes qui vous en parlent. C'était quoi la nature des commentaires que vous aviez entendus à cette époque?
C'est des étudiants qui me disaient qu'ils entendaient des rumeurs à l'effet qu'il y avait une augmentation de 100 $ par
an. Est-ce qu'il y avait des discussions donc, avec ces étudiants-là ou au niveau plus officiel avec des représentants de l'exécutif de l'ERCO ou de la communauté en général?
Oui, ça c'est un aspect. Évidemment, c'était un souci de l'ERCO de savoir combien ça allait coûter. C'est des discussions qu'on avait eues avec eux à ce sujet-là.
Et comment est-ce que le message était également, est-ce qu'il y avait d'autres voies par lesquelles la question de rénovation allait être justement communiquée aux représentants de
oui.
aux locataires en général et l'ERCO plus particulièrement?
Oui, au mois d'octobre, donc, il y a eu un communiqué qui a été fait à cet effet-là. Il y a eu des rencontres aussi avec les représentants d'étage. Un représentant d'étage, c'est quelqu'un qui est nommé bénévolement sur son étage pour représenter l'ensemble des locataires. Alors nous, on les avait invités. Il y en a un d'ailleurs des témoins qui l'a spécifié. Puis on a parlé d'un certain nombre de sujets, dont entre autres les rénovations.
Ça se tenait quand cette rencontre-là?
Ça s'est tenu à l'automne 1999, début de l'automne, autour du mois d'octobre.
Donc, est-ce que vous avez rencontré chacun des représentants d'étage?
L'ensemble des représentants d'étage ont été invités, puis il y a eu une très bonne participation. La plupart sont venus.
Donc, il y a le communiqué qui est le 15 octobre. Est-ce qu'il y a d'autres formes également de communiqués qui sont acheminés, transmis aux locataires suite à ces rencontres qui sont faites? Quelle a été la démarche suivante au niveau des rénovations?
Bon, on a eu aussi une rencontre au mois d'octobre. On en avait eu une au mois de juillet, au mois d'octobre, avec l'ARCO.
Est-ce que vous étiez présente à cette rencontre-là?
Oui, j'étais présente. Et à ce moment-là, on est venu. Le but de la rencontre, c'était justement lié aux rumeurs qui circulaient, leur donner plus d'informations à cet effet-là.
Quelles étaient les préoccupations à ce moment-là des gens qui... Bon, vous étiez présent pour les résidences, pour la direction. Qui était avec vous à cette rencontre-là pour la direction?
Alors...
C'était seul ou il y avait d'autres personnes?
Non, j'étais avec M. Duval.
Et quel était le sujet des discussions, les préoccupations, s'il y en avait, des représentants de... On va discuter avec l'ARCO à ce moment-là, des représentants de l'ARCO.
C'est sûr qu'il y avait, je pense que le sujet qui nous préoccupait le plus, c'était ce qui était lié aux cuisines et aux cafés étudiants.
C'était quoi particulièrement ce sujet-là? C'était quoi leur revendication par rapport aux cafés?
Ils avaient une crainte qu'il n'y ait plus de cafés étudiants, alors que c'était absolument pas notre intention de ne pas mettre de cafés étudiants. Par contre, on souhaitait mettre des cuisines à la disposition des gens parce que c'est une demande qu'on a. Les nouveaux locataires arrivent. Ils n'ont pas d'endroit pour cuisiner. Alors, on voulait...
Pourquoi ils mangent où, de son...
Bien, ils sont...
Du restaurant tout le temps, ou...
Non, il n'y a pas de restaurant vraiment autour. Avant, à l'origine, il y avait un café. Il n'y avait pas un café, mais il y avait un restaurant dans le pavillon. J'y avais ça à côté, et c'est tout le cas. Alors, ils s'organisent par eux-mêmes. Ils ont des petits fours à deux ans, ce qui est très dangereux dans les chambres. C'est pour ça que nous, on voulait mettre des cuisines. On a eu des cas... D'ailleurs, on a passé au feu, en tout cas, une chambre qui a passé au feu. Nous, on ne permet pas ça, mais je pense qu'il y a des gens qui cuisinent quand même avec des problèmes.
Alors, quel était à ce moment-là
Il y a un gros problème au niveau des frigidaires, on en a parlé beaucoup. Moi, on n'a jamais parlé de cuisinière, effectivement. Je comprends que les étudiants ne peuvent pas vraiment se faire à manger dans leur chambre, sauf si un poêle artisanal ou deux rondes.
Exactement.
Ou un micro-ondes.
Nous, on ne permet pas ça pour les réindications de risque d'incendie. Très dangereux.
Mais il n'y a pas de cafétéria à leur disposition le soir?
Cette année, ce qu'on a fait dans les nouvelles constructions, par contre, on a mis des cuisines dans le 24-42 pour les garçons. Il y a deux cuisines disponibles pour l'ensemble du pays.
C'est la seule place où vous en avez fait.
Exactement.
Au Rouen, vous n'en avez pas fait.
Non, suite aux revendications que l'ARCO nous a présentées, on a décidé d'attendre.
C'est ça. Justement, qu'est-ce que vous représentez l'ARCO par rapport aux cuisines? Qu'est-ce qui est envisagé par l'administration à ce moment-là? Qu'est-ce que l'ARCO en pensait?
Nous, on voulait faire... Il y avait deux scénarios qui avaient été présentés. L'ARCO avait suggéré aussi de faire des cuisines sur chaque étage. Donc, de convertir les salons en cuisine. Sauf que ça multipliait les coûts. C'était vraiment trop onéreux pour nos besoins. Parce qu'il faut oublier, on est sur l'autofinancement. Alors nous, ce qu'on avait proposé, c'était de faire des cuisines dans la salle de jeu qui est connexe finalement au café étudiant.
Est-ce qu'il y avait d'autres sujets qui étaient discutés lors de cette rencontre d'octobre?
Bien, c'était principalement ça. C'était en
les cafés, les cuisines, les questions du loyer également.
Le loyer, le virement qui circulait sur l'augmentation. Il y a eu dépôt aussi de documents. Là. On a remis les plans de vie préliminaires, les prévisions budgétaires, des choses comme ça. Monsieur Duval a remis aussi.
Par la suite, vous pourriez nous parler du... Il y a eu quelque chose avant, parce que là, je sais qu'il y a eu tout ce qu'on a appelé le projet pilote là, au mois de janvier, mais entre le mois d'octobre et le mois de janvier, est-ce qu'il y a eu d'autres suivis de ces, au niveau des rencontres ou d'autres aménagements possibles relativement aux rénovations?
Non, là, ça nous mène au mois de janvier, là, où on a commencé à travailler sur la chambre.
Alors, c'est quoi ce projet pilote, cette chambre modèle? Qu'est-ce qui était proposé aux locataires?
Bon, alors, à partir des informations qu'on avait ramassées des étudiants, on a conçu une chambre modèle avec le mobilier qu'on proposait, la disposition et tout.
Cette chambre a été aménagée à quel endroit?
Elle a été aménagée au 14e mois, donc on a été au 14e étage.
À quelle période, janvier?
En janvier, c'est ça, on l'a aménagé. Et puis par la suite, début février, on a demandé à l'ensemble des gens de venir la visiter pour nous donner leurs commentaires.
La chambre, donc c'était la chambre qui était aménagée. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient aménagées à ce moment-là ou uniquement une chambre de studio ou la chambre?
Oui, 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 il y a eu aussi... en fait, on a voulu donner un peu l'idée de ce que ce serait. On avait fait le corridor, on avait mis de la tuile et puis on avait repeint. Et puis on a fait une chambre à l'air.
Vous étiez en train de me dire, à partir de février, vous invitiez la communauté. Alors, de quelle façon ça a procédé? Qu'est-ce qui était visé par l'administration?
Bon, là, on a invité tous les gens qui pouvaient être impliqués par cette chambre modèle-là. Alors, on a invité, évidemment, l'équipe de travail, les employés, les gens de métier, tout ça. Mais la première personne, les premières personnes invitées à visiter la chambre, c'était le président de l'ERCO et puis les membres de l'exécutif. Par la suite, on a invité les représentants d'étage, puis ensuite, on a invité les locataires à venir la voir, puis à nous donner leurs commentaires.
Le président de l'ERCO, à cette époque, c'était M. Gaulin,
oui.
Président dans cette salle.
M. Gaulin.
Ici, je vois un document intitulé communiqué important qui figure à l'onglet 4. Que vous reconnaissez ce document-là daté du 12 janvier 2000.
Oui.
C'était quoi le but de ce communiqué-là?
Alors, c'était pour finalement informer les gens du corridor qu'on allait faire des travaux au niveau là, du corridor et de la chambre.
Est-ce que vous êtes l'auteur de ce document-là?
Je ne suis pas l'auteur, mais je l'avais lu avant que ce soit disponible.
C'est votre service qui a préparé ce document?
Oui, tout à fait.
Ici un document intitulé également communiqué important daté du 14 janvier 2000 qui n'est pas encore produit. Est-ce que vous reconnaissez ce document-là?
Oui, ça c'était un document qui, toujours là dans la planification des travaux qui s'en vont, qui signifiait que gestion Claude Lavelle, qui a été finalement la firme retenue comme gestionnaire de projet, qui allait passer pour prendre des relevés, faire des modifications à l'intérieur de chaque studio de la Tour Ouest.
Ce document, ainsi que le précédent, le document du 12 janvier 2000, est-ce qu'il a été diffusé toujours par chacune des voies à travers les casiers postaux?
Les casiers postaux, oui.
Et le document qui n'est pas encore coté que du 14 janvier 2000?
Aussi, il a été diffusé par casier postaux.
Alors, effectivement, j'aimerais le produire sous P23. Ça, c'était encore une fois l'ensemble des locataires, l'ensemble des résidences.
Oui, oui. De la Tour Ouest.
Bon, vous me dites qu'il y a eu des visites avec les représentants de l'ERCO, les représentants de l'étage, ainsi que l'ensemble de la communauté au février. Là. Quel était le but de ces visites organisées par le service des résidences?
Le but, c'était de prendre les commentaires des gens, afin de voir si on répondait bien aux besoins, si on n'avait rien oublié. C'est ça. C'était pour s'ajuster avant le produit final.
Est-ce que ces commentaires ont été recueillis de façon particularisée ou est-ce qu'il y a une façon de... Est-ce que ça a été enregistré quelque part, autrement dit?
Ben, il y a une personne qui était sur place et qui était mandatée pour recueillir les commentaires.
Est-ce que ces commentaires-là ont eu finalement un impact sur la rénovation projetée?
Oui, il y a eu plusieurs modifications qui ont été faites suite aux remarques des gens.
Je présente maintenant un document qui figure à l'onglet 5, daté du 22 mars 2000. Est-ce que vous reconnaissez le document?
Oui, je reconnais le document. C'est celui qu'on a envoyé pour expliquer aux gens comment se fait là, finalement les travaux, la portée, tout ça.
Oui, ici, le document pour chacune des pavillons, particulièrement la Tour Ouest, qu'est-ce qui était passé?
Oui, c'est ça. On étudie les travaux prévus.
Je retire votre attention, rénovation des studios Tour Ouest du 8 mai au 15 août 2000. Est-ce que ce moment-là, le calendrier était disponible? On va laisser le 8.